Voilà, nous reprenons immédiatement avec quelques minutes de retard. Nous entendons encore maintenant deux conférencières. Tout d'abord, Hélène Merlin-Cajman, professeure de littérature française du XVIIe siècle à l'Université Sorbonne Nouvelle, qui va nous parler d'un livre intitulé « Lire dans la gueule du loup, essai sur une zone à défendre ». La littérature, paru en 2016 chez Gallimard. Hélène, vous avez la parole.
Merci. Je voudrais à mon tour commencer par remercier chaleureusement Antoine Compagnon pour avoir organisé cette table ronde et pour m'y avoir convié. J'ai beaucoup appris depuis ce matin et j'attends avec impatience la communication de Catherine Cocchiot, dont j'admire infiniment le livre « Le mal de vérité ». Et je me réjouis donc de l'écouter clore cette journée. Selon le titre de cette table ronde, nos débats portent sur l'histoire littéraire, nouveaux objets, nouvelles méthodes. Je ne crois pas qu'on puisse dire de mon livre « Lire dans la gueule du loup » qu'il est un livre d'histoire littéraire. C'est plutôt un livre de théorie littéraire, comme le suivant d'ailleurs, « L'animal ensorcelé ». Cependant, deux des chapitres de « Lire dans la gueule du loup » se penchent sur la question de l'anachronisme. Question qui a été du reste évoquée ce matin à propos du terme de littérature lui-même, et c'est un des problèmes que j'aborde dans ces deux livres. En effet, ma décision de redéfinir la littérature à partir de la question de sa transmission et de son partage engage nécessairement un point de vue sur son historicité. Je n'aurai pas le temps de m'appesantir sur cette dimension de ma recherche, mais pour vous donner le plus simplement possible une idée de ce que je veux dire par là, je voudrais me contenter d'une remarque. Un écrivain peut être connu de façon posthume et sans jamais avoir voulu écrire à proprement parler de la littérature, Madame de Sévigné par exemple. Certaines œuvres ont pu même être éditées de façon totalement posthume sans jamais avoir été lues par quelque public que ce soit de son vivant. C'est le cas d'Henri de Campion par exemple et de ses mémoires écrits au XVIIe siècle. Or, un tel phénomène n'est pas possible pour un homme politique ou pour un comédien. C'est que la politique, le spectacle théâtral, ne sont pas engagées dans le temps de la même manière que la littérature. Elle n'est pas la seule pratique culturelle de ce type du reste. Bien sûr, les objections à ce que je viens d'affirmer viennent en foule. Notamment, je sais que j'exprime par cette remarque un désaccord avec des formes d'historicisation de la littérature qui font de la littérature un objet du passé comme les autres, qu'il conviendrait de resituer d'abord et avant tout dans son contexte d'apparition et de production, dans ses institutions, dans ses déterminations socio-économiques et politiques. Mais mon idée est en fait presque inverse. La littérature n'est pas un objet du passé comme les autres, et cet aspect nous renseigne lui-même, au contraire, sur ce que Rancière a pu appeler la chronicité de l'histoire elle-même, car il attire notre attention sur le fait que l'histoire combine des temps divers et des modes divers de lier ensemble le passé, le présent et l'avenir. Selon moi, il faut en effet penser la littérature comme un réservoir d'objets symboliques particulièrement puissants, non seulement en raison de leur plasticité signifiante, mais aussi en raison de leur destination toujours peu ou prou différée et différable. C'est une dimension qui décrit leur disponibilité temporelle. Ce sont des objets destinés à se déplacer dans le temps. Et cela a à voir avec ce que j'appelle la transitionnalité de la littérature. J'emprunte ce concept au psychanalyste Donald Winnicott. Tout le monde aujourd'hui connaît le représentant le plus célèbre des objets transitionnels, le doudou. J'aime parler, je l'avoue, de la littérature comme un doudou, comme d'un doudou. Cela me permet de souligner son importance sans être accusée de vouloir la mythifier ou la remythifier. J'ajoute que je ne suis pas du tout la première à l'avoir pensée sous le signe de l'objet transitionnel. Barthes l'a fait par exemple, ou Jean-François Lyotard. Michel Picard l'a même conceptualisé de façon systématique, mais selon une perspective que je ne partage pas. Je rappelle que pour Winnicott, le nourrisson commence par vivre le sein de la mère, qui peut-être, je le précise au passage, le biberon donné par le père, comme une partie indistincte de lui-même. Le doudou, pour le nourrisson, n'est déjà plus le corps indifférencié, mais n'est pas encore un objet factuel, séparé de lui. Pour Winnicott, le bébé a besoin pour grandir d'un espace où les objets lui apparaissent dans une sorte d'évidence ou de consistance absolue. Concernant ces objets, on ne doit pas poser au nourrisson, dit Winnicott, la question de savoir d'où ils viennent, d'où ils proviennent, où il les a trouvés. On s'abstient d'une démarche de suspicion, en somme. On suspend l'esprit critique. On partage avec le bébé cet espace transitionnel que Winnicott appelle aussi aire de jeu. Pour ce travail de séparation et d'objectivation du monde interne, le nourrisson mobilise des substituts symboliques avec lesquels il va jouer. Winnicott insiste sur la dimension libre de ce jeu, auquel il réserve le nom de « playing », par différence avec le jeu à règles, le « game ». Mais Winnicott élargit la perspective. Selon lui, cette ère de pure potentialité ne concerne pas que le passage du bébé d'un stade indifférencié à un stade bien individualisé. Elle concerne en quelque sorte définitivement ou constitutivement chacun de nous, car, je cite, « l'acceptation de la réalité est une tâche sans fin dont la tension peut être soulagée par l'ère intermédiaire d'expérience qui n'est pas contestée ». C'est la culture, selon Winnicott, au sens artistique et littéraire du terme, mais Winnicott y adjoint la religion. Au niveau collectif, donc, existe quelque chose comme une ère potentielle permettant à chacun de jouer, non selon les règles impérieuses de la réalité sociale, de ses institutions et de ses conventions, mais selon un jeu libre et créatif, dit Winnicott. Opposition problématique, évidemment, pour nous qui pratiquons la littérature au sein d'une discipline. C'est bien l'un des enjeux de ma recherche que de chercher à redéfinir cette discipline et sa fonction. En tout cas, l'élargissement des phénomènes transitionnels aux objets culturels met en évidence cette nature temporelle très particulière que j'évoquais il y a un instant. Il ne s'agit pas seulement du passage chronologique d'un état à un autre. Il s'agit aussi de tout ce qui n'arrête pas de circuler entre nous pour nous relier, à la fois nous relier par nos intériorités et par le monde extérieur, dans un jeu que j'essaie d'analyser de près. Il est probable, du reste, que l'on tient là l'un des fondements anthropologiques de l'économie du don à laquelle j'ai rattaché aussi la littérature. L'être humain, je le rappelle, naît dans un état d'inachèvement qui nécessite des apprentissages pour survivre et pour adapter sa physis, c'est-à-dire d'abord son cerveau, aux exigences du monde social. La transition de A exige et repose sur la transmission et l'éducation, c'est-à-dire la coprésence des générations. C'est une manière de broder toujours autour de la même idée. Mon idée est que la littérature peut fonctionner comme un bon objet transitionnel parce qu'elle nous relie, mais sur un mode en devenir, contrairement par exemple aux textes sacrés, un mode en constante renégociation, un mode qui ne demande pas la soumission du lecteur à la lettre du texte, contrairement en général aux textes sacrés, dirais-je pour aller vite. Mais définir la littérature par sa transitionnalité n'est en rien une définition d'essence. Comme l'a souligné Jean-Luc Nancy, les textes littéraires ont pu aussi être partagés comme mythes, perspective que j'ai cherché à croiser avec celle de Rancière à propos du partage du sensible. Par ce concept de transitionnalité, je cherche donc à placer la littérature sous le signe d'une transmission et d'un partage spécifique, non sans rapport avec le concept souvent décrié aujourd'hui de catharsis, et je l'oppose à d'autres types de partage et de transmission, notamment ceux que j'appelle traumatiques. Je vais revenir sur la définition du trauma. Je me contenterai ici de placer la transmission que j'appelle traumatique sous le signe d'une phrase de Winnicott à propos de pratiques thérapeutiques qui ne respectent pas l'ère transitionnelle de la cure. Je cite « Le moment clé est celui où l'enfant se surprend lui-même et non celui où je fais une brillante interprétation. L'interprétation donnée quand le matériel n'est pas mûr, c'est de l'endoctrinement qui engendre la soumission. » J'appelle traumatique la communication littéraire qui vise à implanter violemment son message ou son imaginaire dans l'esprit des lecteurs en faisant intrusion ou même effraction dans leur psychisme et en visant à s'en emparer totalement. Or, depuis déjà mon livre paru en 2002, « La langue est-elle fasciste ?», ma réflexion m'a progressivement amenée à repérer la présence actuelle d'un tel scénario pédagogique dans l'enseignement et la théorie littéraire, présence souvent revendiquée, quoique sous d'autres vocables. Scénario pédagogique auquel on pourrait ajouter l'insistance présente d'esthétique que j'appellerais post-nietzschéenne ou post-bataillenne, pour aller vite. Les modèles sous-jacents à ce type de projet pédagogique sont nombreux et je ne prétends pas les résumer ici. Je me contenterai d'évoquer les mots d'ordre les plus radicaux issus de la modernité. La transgression, notamment la transgression des normes de la bienséance, a été considérée comme le meilleur agent possible de la subversion. Autre mot d'ordre de la modernité. La transgression, autant dire un choc salvateur, jugé salvateur. Mon but est inverse. J'essaie de montrer que le partage transitionnel de la littérature est capable de desserrer l'emprise traumatique qui pèse sur nos existences. Je tiens pour acquis, en effet, qu'aucune vie humaine n'échappe à ce risque, même quand on n'a pas connu de traumatisme grave. Je vais aussi revenir sur la définition du traumatisme. Je dis aussi, car nous allons voir qu'il y a lieu de distinguer trauma et traumatisme. Mais je me contenterai de mentionner, pour illustrer ce propos, la période de l'adolescence comme cas évident d'un moment traumatique traversé par tout un chacun. Un psychanalyste spécialisé dans la psychanalyse de l'adolescence, François Marty, évoque ce qu'il appelle l'agression pubertaire au moment de l'adolescence. Le grand neurobiologiste Alain Prochian évoque quant à lui un bombardement hormonal d'une telle violence qu'on peut expliquer par lui certaines entrées dans la schizophrénie au moment de l'adolescence. La plupart des sociétés humaines ont encadré par des rites de passage ce moment crucial de fragilisation et de l'individu et de la société. Le lycée et la place qui avait la littérature dans l'ancien système scolaire pourraient recevoir une nouvelle lumière de ce constat. En général, quand je présente cette réflexion, seule ou avec des membres de Transition, le mouvement que j'ai créé il y a maintenant 7 ans pour réfléchir à ces questions et en dégager de nouvelles pratiques critiques, les réactions prouvent que bien des enseignants considèrent au contraire de leur devoir de secouer les élèves ou les étudiants, voire de les choquer, comme je disais, et lisent dans mon refus de la transmission traumatique un retour à la morale, aux normes de bienséance et aux interdits dont le classicisme fournit régulièrement le modèle répulsif. Les enseignants et les enseignants-chercheurs voient dans la secousse ou le choc les signes salvateurs d'un début de prise de conscience, d'arrachement aux préjugés moraux et politiques dont les élèves sont évidemment habités et que l'école se donne légitimement pour charge de combattre, sinon de dissiper. Mais plus récemment, alors que j'étais visiting professeur aux États-Unis à Rutgers University et que lors d'une conférence devant mes collègues du French Department, je présentais ma recherche, une collègue m'a demandé de préciser en quoi ma position n'était pas celle du trigger warning, comme il lui semblait le comprendre. Le trigger warning désigne aux États-Unis une pratique d'enseignement en pleine expansion qui fait l'objet d'une polémique passionnée. Ces modalités sont souvent assez floues et je n'ai pas le temps de vous la présenter dans ses détails. Mais comme je ne doute pas qu'elle n'arrive assez rapidement chez nous, j'ai choisi donc de préciser pourquoi, pour moi, la pratique du trigger warning n'est pas ce que j'appelle pratique transitionnelle de la littérature. Pour aller au plus simple, je citerai la définition donnée par Wikipédia du trigger warning. Avertissement qui prévient qu'une œuvre contient des éléments pouvant déclencher le rappel d'un traumatisme. De fait, même en dehors d'une judiciarisation précise, les enseignants de littérature sont incités à avertir leurs étudiants, warning signifie avertissement, qu'une œuvre littéraire ou artistique, un document ou tout simplement un cours, sont susceptibles de déclencher, to trigger, un choc trop violent, de produire un malaise émotionnellement trop déstabilisant pour eux, pour leur sécurité psychique ou psychosociale, afin qu'ils puissent se soustraire à cette blessure. De façon plus générale, le but du trigger warning est qu'ils puissent se sentir en sécurité dans les cours. Généraliser cette pratique ferait en sorte qu'il n'ait jamais de surprise pénible. Car le corollaire du trigger warning, c'est que les étudiants peuvent ne pas assister aux cours dont le contenu risque de les heurter trop violemment et de les mettre en trop grande difficulté devant les autres. En corollaire, ils sont aussi autorisés à sortir pendant un cours dont ils ne supportent pas la teneur. Je pourrais donc hâtivement résumer en disant, ils sont donc autorisés à se soustraire à de la transmission traumatique. Par conséquent, le trigger warning est une pratique qui peut contribuer au partage transitionnel que j'appelle de mes voeux. Je ne le crois pas, même si je pense que ce besoin de trigger warning a très certainement en partie pour cause la transmission traumatique que je viens d'évoquer trop schématiquement, le scénario pédagogique reposant sur le primat accordé au choc comme outil pédagogique, comme outil critique. En ce sens, ce besoin me paraît légitime et symptomal, donc à écouter sans s'indigner. Mais pour présenter ma position, il faut passer par le détour d'une mise au point sur la définition du trauma. Dans un dictionnaire de psychanalyse paru en 2003, Jacqueline Rousseau-Dujardin rappelle une distinction utile entre traumatisme et trauma. Je cite « Traumatisme s'applique à l'événement extérieur qui frappe le sujet, trauma à l'effet produit par cet événement chez le sujet, et plus spécifiquement dans le domaine psychique. Fin de citation. Selon cette distinction, le traumatisme est du côté de l'événement, le trauma du côté de l'effet psychique. Si l'on résume la façon dont Freud définit le trauma dans « Au-delà du principe de plaisir », qui date de 1920, on peut dire qu'il s'agit d'une blessure laissée dans l'inconscient par un trop d'affect, une excitation hyper intense, dont l'appareil psychique ne parvient pas à réduire l'excès, faute de réussir à le lier en représentation, à le filtrer par des chaînes de représentation associées. En ce sens, le trauma se signale par une pauvreté en représentation, voire une absence de représentation. Le névrosé de guerre, par exemple, fait toutes les nuits le même cauchemar qui lui donne à revivre la scène de bataille où il a vu mourir l'ami combattant à côté de lui sans pouvoir lui porter secours. Le névrosé de guerre est obnubilé par un réel qui se répète à l'identique sans que plus rien de nouveau puisse s'accrocher à ce souvenir passé, sans que plus rien de mouvant puisse enfin déplacer la scène, laquelle est donc davantage une hallucination qu'un souvenir. On voit bien une première difficulté. Si l'on se tient au pôle de l'auteur, de la source productrice d'un texte littéraire, le trauma, selon sa définition psychanalytique, ne peut pas faire l'objet d'une représentation. Le trauma n'est pas un objet référentiel. Il n'est pas transmissible au titre d'un contenu narratif, d'autant que le plus souvent, il n'est pas en fait expérimenté par le sujet, qui souvent ne se souvient même pas de ce qu'il a vécu ou s'en souvient pauvrement. La formule « rappel d'un traumatisme » présente dans la définition du trigger warning est donc problématique, voire équivoque. De ce qui précède, il est en effet aisé de conclure que ce qui, au sens psychanalytique, rappelle un trauma est propre à chaque individu, car c'est une trace, jamais l'objet d'une représentation. Cependant, Jacqueline Rousseau Dujardin distingue trauma et traumatisme. Le traumatisme, lui, renvoie à l'événement extérieur qui frappe le sujet. Dans leur livre intitulé « L'Empire du traumatisme » paru en 2007, Didier Fassin et Richard Reichmann ont montré comment le traumatisme présente aujourd'hui dans nos discours, dans notre regard sur le monde, du moins dans les sociétés occidentales dites avancées, un caractère d'évidence qu'il ne présentait pas il y a encore une vingtaine d'années, suscitant désormais notre immédiate sympathie pour celui qui l'a subi. Le traumatisme désigne un événement objectivement insoutenable et injuste, vécu soit par un seul, accident, viol, torture, soit collectivement, tsunami, bombardement, massacre, etc. Cette définition conditionne notre compréhension du trauma, considéré désormais comme le dommage psychique normal, automatiquement causé par la réalité événementielle du traumatisme, ceci presque indépendamment de l'histoire du sujet, en tout cas de son histoire psychique, biographique, si je puis dire. Le traumatisme transforme l'individu qui l'a subi en victime, disposant de droits à la réparation en vertu de cette injustice qui lui est associée, que cette réparation soit thérapeutique, symbolique, économique, judiciaire, politique ou tout cela à la fois. C'est évidemment ce sens qui est mobilisé dans le trigger warning. Mais vous noterez que ce n'est pas celui que j'évoquais avec le cas de l'adolescence comme moment traumatique présent dans toutes les existences. À la vérité, depuis Freud, les psychanalystes ont beaucoup débattu de la question de savoir si le trauma appartenait en quelque manière que ce soit à la réalité extérieure au sujet, débat qui a des conséquences directes sur la pratique de la cure, comme le souligne notamment Laurence Kahn dans un livre récent de 2014, « Le psychanalyste apathique et le patient postmoderne ». Son livre a l'immense intérêt pour nous de nous montrer comment la psychanalyse a pu être, est, agitée par des débats très similaires à ceux qui ont agité nos disciplines, ou encore celles de l'histoire, depuis notamment ce qu'on a appelé le « linguistic turn ». Faut-il écouter le patient un tant soit peu littéralement ou non ? Je traduis, faut-il l'écouter selon l'illusion référentielle ou non ? L'extra-textuel de nos analyses littéraires est-il analogue à l'extra-psychique des analystes ? Le détour par ces débats internes à la psychanalyse nous invite à placer la littérature sous d'autres questions. Par exemple, qu'est-ce qu'un contact de parole ? Quelle est l'altérité d'un texte et ses effets ? De séduction, on a vu que ce terme apparaissait chez les censeurs du XIXe siècle, les censeurs religieux du XIXe siècle. De séduction, d'effraction. Comment en user ? Comment accueille-t-on un texte en soi ? À partir de quel postulat de départ sur sa fonction linguistique, sur son geste d'adresse, sur l'espace de sa destination ? Comment se relie-t-on à lui ? Comment le réadresse-t-on ? Etc. Ce sont des questions évidemment trop générales, qui mériteraient toutes d'être dépliées finement. Je donne un exemple pour indiquer brièvement un peu de leurs enjeux. Il s'agit de l'incipit de l'enfant, roman autobiographique de Jules Vallès. Le récit raconte, en première personne, un souvenir d'enfance. Le père est en train de fabriquer un chariot en bois à son fils, qui l'attend, émerveillé. Je cite. « Le chariot va être fini. J'attends tout ému et les yeux grands ouverts. Quand mon père pousse un cri et lève sa main pleine de sang, il s'est enfoncé le couteau dans le doigt. Je deviens tout pâle et je m'avance vers lui. Un coup violent m'arrête. C'est ma mère qui me l'a donné, l'écume aux lèvres, les poings crispés. C'est ta faute si ton père s'est fait mal. Et elle me chasse sur l'escalier noir en me cognant encore le front contre la porte. Je crie, je demande grâce et j'appelle mon père. Je vois avec ma terreur d'enfant sa main qui pend toute hachée. C'est moi qui en suis cause. Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir ? On me battra après si l'on veut. Je crie, on ne me répond pas. J'entends qu'on remue des carafes, qu'on ouvre un tiroir, on met des compresses. » Il y a 30 ans, fin de citation, il y a 30 ans, j'ai assisté à une communication qui analysait ce texte comme la traduction d'un fantasme oedipien. Ici, la lecture intra-psychique soutenait donc aussi une lecture intra-textuelle, une lecture interne de l'œuvre. Aujourd'hui, il me paraît peu douteux qu'on y reconnaîtrait le récit d'un traumatisme vécu réellement, guillemets évidemment. Et l'enfant ferait à coup sûr partie des œuvres nécessitant un trigger warning. Or, à mes yeux, les deux lectures ont quelque chose de traumatique. Je dis bien les lectures, pas le texte, car elles font violence au possible du texte lui-même, à son bouger, elles le figent. La première par les répudiations de l'évidence sensible de la lecture référentielle. J'avais dans mon livre « Lire dans la gueule du loup », j'ai pris l'exemple d'une lecture du « Mauvais vitrier » de Baudelaire, quand est totalement dénié aux lecteurs, aux élèves, aux étudiants, l'autorisation de commencer par lire le texte comme le récit d'une blague extraordinairement cruelle et violente du poète à l'encontre du mauvais vitrier. Donc la première fige le texte en répudiant l'évidence sensible de la lecture référentielle, disais-je. La seconde le fige par la littéralisation inverse du texte, hein, qui le réduit à sa dimension référentielle sans rien écouter de son style, c'est-à-dire de son adresse. Bien sûr, je me doute qu'on pourra juger mon adjectif traumatique ici, terriblement exagéré et dramatique. C'est une critique qu'on m'a faite et je la comprends. Je n'ai malheureusement pas le temps de préciser ce point. Je note seulement que le traumatique est en train de devenir un enjeu littéraire de facto par le biais de l'enseignement. La question est sans doute la suivante. Si la littérature a toujours à voir avec quelque chose de traumatique, doit-on attendre d'elle qu'elle le majore ou qu'elle aide à l'élaborer ? Mon livre « Lire dans la gueule du loup » tient son titre en partie d'une citation empruntée au livre d'une autre psychanalyste, Monique David-Ménard. Dans « Tout le plaisir est pour moi », elle définit les quatre types de répétitions autour desquelles tourne la psychanalyse dès son origine. La répétition traumatique, j'en ai parlé tout à l'heure, la répétition dans le jeu, la répétition dans l'art et la répétition dans le transfert. À propos du jeu, rejoignant la perspective de Winnicott, elle écrit « Les enfants jouent en inventant des scénarios qui encadrent et transforment ce qui a provoqué leur effroi. Ils ont peur d'aller chez le docteur et ils jouent au docteur avec grand plaisir. » Elle étend cette caractéristique du jeu enfantin à l'expérience de la lecture en donnant l'exemple d'un conte. Je cite « Ils veulent toujours qu'on leur relise la même histoire triste et attendent avec délectation la chute du récit comme dans La chèvre de M. Seguin. Elle se battit toute la nuit et au petit matin, le loup la mangea. » Elle conclut alors « Au lieu d'aller droit à la catastrophe, le jeu lève un coin du voile et met fin à la fixité des places qui figeaient l'existence. Si je suis tour à tour le loup et la chèvre qui luttent toute la nuit, je ne suis plus omnubilé par l'un ou par l'autre. » Par l'un ou par l'autre. Victime ou bourreau. Évidemment, portant sur un conte pour enfants, cette perspective est loin de rendre compte de l'ensemble de la littérature et loin de résoudre tous les problèmes. Je dirais simplement que l'ironie de Vallès, pour revenir à ce passage de l'Incipit de Vallès que je citais tout à l'heure, l'ironie de Vallès qui conjugue de façon proprement vertigineuse sarcasme et humour, amour et haine, invite son lecteur à bouger en lui faisant partager une oscillation permanente entre des pôles d'identification. L'enfant de Vallès me paraît donc un bon exemple de transitionnalité, à condition que le commentaire emménage la possibilité, l'espace. Si je lis ou laisse lire à des élèves, à des étudiants, à des enfants, ce texte sur ce mode, la lecture me procure, leur procure, l'espace d'une transformation grâce à laquelle je ne suis plus englouti dans la fixité des places qui figeaient l'existence, pour reprendre l'expression de Monique David-Ménard, qui précise encore qu'on nomme habituellement subjectivité cette capacité de jouer avec les points de souffrance. Je la cite encore. « Ce qu'on appelle la vie intérieure, c'est pour la psychanalyse la capacité de lier plaisirs et déplaisirs par des substitutions de rôles et d'objets dans nos rêves et dans les choix qui guident la vie. » C'est cette subjectivité qui se trouve anéantie dans la névrose traumatique. En revanche, dernière citation de Monique David-Ménard, quand une œuvre est produite qui permet de jouer avec le risque d'une dissolution subjective, ce qui aurait pu arrêter une existence se trouve remis en route. J'ajouterai, encore faut-il qu'un commentaire, une mise en scène, un enseignement, ménage ce partage-là en gardant ouvertes toutes les disponibilités du texte. Et c'est ce que j'appelle un partage transitionnel de la littérature, qui me paraît être le critère de la littérarité de la littérature. Pour conclure, j'espère vous avoir fait comprendre que l'intérêt que je porte à la question du trauma ou du traumatique n'est pas un intérêt porté à un nouvel objet. C'est ce qui sépare d'ailleurs complètement ma perspective de ce qu'on appelle aux États-Unis les trauma studies. Et plutôt que de nouvelles méthodes, il appelle à une nouvelle pratique, ou plutôt à une pratique renouvelée de la littérature en se fondant sur son incontournable achronicité. Il me paraît en effet évident que la référence à la théorie winnicottienne n'impose aucune voie critique particulière. Il n'y a aucune raison de se priver des outils critiques, des méthodes, des notions accumulées par les savoirs qui ont pris la littérature pour objet. Il s'agit plutôt, à mes yeux, de se situer face à cet objet dans une démarche qui ne la prive pas de sa dimension d'objet de don, dimension à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. En revanche, la référence à la théorie winnicottienne met en lumière deux pièges dans lesquels la critique des dernières décennies est peut-être tombée, entraînant peut-être, au moins pour une part, la désaffection actuelle des études littéraires. Les théories critiques qui ont fait la chasse aux lectures naïves ou de premier degré ont fait de la désillusion le fondement, quelque peu traumatique donc, selon moi, de l'esprit critique. D'autre part, celles qui ont voulu établir qu'un texte littéraire ne se comprenait que dans son contexte l'ont rejeté dans un passé où il n'apparaît quasiment que comme objet de connaissance. Les deux démarches se rejoignent en ceci, qu'elles font du texte littéraire un objet de pur savoir, radicalement séparé d'un sujet, le lecteur. Quand ces deux perspectives sont mobilisées de façon dogmatique, et elles le sont, je le crains, trop souvent, elles sont toutes deux destructrices de ce que j'ai appelé la transitionnalité de la littérature et destructrices du lien. Si les fondements actuels de la connaissance historique d'un côté, des sciences des textes de l'autre, visent à dénaturaliser, à objectiver les textes littéraires, alors ceux-ci ne peuvent plus être transmis comme objet transitionnel, c'est-à-dire sur un mode qui nous relie par nos intériorités, y compris celles du passé, en les accueillant en extériorité, si je puis dire, grâce à ce médium partagé. En extériorité, c'est-à-dire dans le partage actuel mondain de la littérature et de son commentaire. Peut-être faudrait-il repenser le discours critique et l'enseignement de la littérature à la lumière d'une phrase de Barthes dans un entretien où il défendait le mot d'ordre de la mort de la littérature, mais avec embarras, avouant « J'ai du plaisir à lire et je ne vais pas aussi loin que certains de l'équipe de Telle Quelle qui brûlent toute la littérature. » Il ajoutait alors « Je pense qu'il faut lire dans le désir du texte futur. » Lire le texte du passé, dans une visée nihiliste, en quelque sorte, dans ce qu'il n'est pas encore. Je propose simplement de corriger et de dire, non pas lire le texte du passé dans une visée nihiliste, mais lire le texte du passé dans une visée transitionnelle, qui suppose donc qu'on ne peut pas séparer le passé du présent ni du futur, mais qu'il y a un lien permanent, ne serait-ce qu'à cause de la coprésence permanente dans l'histoire des générations, et c'est ce que Rancière appelle achronicité, c'est-à-dire faire crédit à tout ce qui s'indique d'emblée, dès son passé, de disponibilité temporelle dans la littérature, témoin de la trame et de la chaîne de l'histoire. La littérature me paraît documenter le temps, en quelque sorte, et voilà d'ailleurs ce qui pourrait indiquer une nouvelle piste pour les historiens. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Hélène Merlin-Cajeman, pour cette très belle présentation.
On a un tout petit peu de temps pour des questions, pas trop. Je commence peut-être par une question un petit peu pour vous provoquer. Est-ce qu'une une lecture transitionnelle de Bataille est possible ?
Oui. En gros, alors en plus Bataille, je réponds oui, sans hésitation. Sade, j'aurais plus de mal, hein, j'hésiterais davantage pour Sade. Mais de toute façon, si vous voulez, moi, ce sur quoi j'insiste énormément, c'est sur le fait que ce n'est pas une affaire de corpus à mes yeux. C'est vraiment une affaire de commentaires. Évidemment, il me semble qu'il y a des textes qui ont une plus grande disponibilité transitionnelle. C'est pas étonnant, parce qu'il y a des esthétiques qui s'opposent quand même, et les textes ne sont pas absolument étrangers à des décisions esthétiques, aux mouvements qui les ont portés, etc. Mais dans L'animal ensorcelé, je commence par donner l'exemple inverse de lecture donc, que j'ai appelé plutôt traumatique pour plein de raisons, qui sont en fait beaucoup plus complexes que ce que j'en ai présenté là, d'un passage de la princesse de Clèves. Autrement dit, cet exemple, à contrario, m'intéresse beaucoup plus que la question de savoir si on peut faire une lecture transitionnelle, ou plutôt partager de façon transitionnelle Bataille. C'est-à-dire, au fond, de toute façon, il est tout à fait possible de se livrer à ce que j'appelle de l'injection traumatique dans un texte classique. Voilà. Donc cette réponse à contrario est plus importante à mes yeux, ce qui prouve bien que à mes yeux, il ne faut pas s'omnubiler sur les corpus.
D'accord. Je vous posais cette question aussi parce que il me semble que vous faites fonctionner transition et transmission ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas justement, peut-être avec Bataille, mais pas nécessairement avec lui, aussi avec d'autres auteurs, des stratégies qui seraient plutôt des stratégies de rupture qui empêchent la transmission, qui s'opposent violemment à la transmission. À la limite, un Mallarmé qui termine en disant « brûlé, il n'y a pas là d'héritage », enfin, disons, il n'a pas l'air prêt à laisser grand-chose. Donc, est-ce que ça, c'est une question qui se pose pour vous?
J'ai envie de vous dire oui, j'ai fait ma thèse sur la notion de public, alors la question de la première typologie de Valéry opposant les œuvres qui répondent à l'attente du public et les œuvres comme l'œuvre de Mallarmé qui crée son public, c'était une typologie à laquelle je me suis tout de suite trouvée confrontée, ou dans Au Juste, Lyotard qui lui fait une typologie à trois termes, les œuvres qui répondent à l'attente du public, ou les œuvres romantiques qui visent un peuple qui n'est pas encore là, ou les œuvres postmodernes qui sont comme des bouteilles à la mer. Mais si la bouteille se perd dans la mer, la question ne se pose pas. Le fait est que la bouteille arrive quelque part. Et dans ce sens-là, la rupture est une forme de destination, je dirais. Et bon, enfin, il y a oui, voilà, j'ai envie de dire, la rupture est une forme de destination. Ça ne veut pas dire, de toute façon, quand je parle de transmission, c'est bien aussi pour ça que je distingue, entre autres, la transmission transitionnelle et la transmission traumatique. Ça ne veut pas dire que la transmission est ininterrompue, qu'elle se passe dans une sereine continuité ou que c'est ce dont je pourrais rêver, pas du tout. Voilà, c'est...
Peut-être une dernière question de ma part. En tout cas, vous avez différencié ce que vous faisiez des trauma studies telles qu'elles se font surtout dans le domaine anglo-saxon. Est-ce que vous pourriez un peu préciser comment vous vous situez par rapport à cette...
aux trauma studies? Oui. Non, sincèrement, non, je ne pourrais pas. Ce serait, je les connais pas assez pour pouvoir répondre honnêtement. Le livre de Cathy Carus est un livre que j'admire, Unclaimed Experiences, je crois. Je crois qu'elle a fondé les Trauma Studies. Disons que j'ai envie de vous faire une réponse qui est un peu une réponse à vue de nez, si je puis dire, c'est que cette multiplication des studies aux États-Unis correspond à chaque fois justement à la création d'objets nouveaux. Enfin, là, récemment, Sound Studies, c'est une espèce de projecteur sur des éléments présents dans une œuvre littéraire qui débouche sur la mobilisation de savoir, qui recompose des corpus, certes. Disons que c'est absolument pas ma démarche, parce que ma préoccupation principale, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de la littérature. Ma conviction est qu'on ne pourra pas sortir des débats qui disent la littérature n'existe pas toujours de tout temps, donc de toute façon c'est un objet complètement historique qu'on n'a qu'à étudier en tant que dans ses apparitions historiques, ou au contraire pourquoi la conserver dans ce cas-là, pourquoi la transmettre, c'est ça essentiellement ma question. Elle est donc d'une généralité, si je puis dire, ambitieuse. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, hein, Hélène Merlin-Cajeman ?